Bonjour à tout le monde. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Les enfants, est-ce qu'on est dans, nous sommes dans la joie? Pourquoi vous êtes dans la joie? Pourquoi? Les enfants, pourquoi? Non? Pasteur a répété plusieurs fois, même l'évêque vient de redire, parce que Jésus est ressuscité. Amen. Parce que s'il n'était pas ressuscité, je ne pense pas qu'on serait même ici. Je ne pense pas. Et nous sommes dans la joie parce que il est ressuscité, parce que des fois dans nos vies, nous commémorons d'autres personnes de nos familles qui sont mortes, mais on n'est pas dans la joie. On n'est pas dans la joie parce qu'ils sont partis pour de bon. Mais pour les croyants, nous avons l'espoir parce que Jésus est ressuscité. Pour ceux qui sont morts en Jésus, ils vont ressusciter au jour, au dernier jour. Amen. Pour vivre éternellement avec Jésus que nous célébrons aujourd'hui. Amen. Amen. Je suis alors privilégié d'être devant vous ce matin pour partager la parole. C'est toujours autour de la Pâque. Même si peut-être je vais pas, vous ne m'avez pas entendre parler beaucoup de ce mot, Pâques, mais ça n'empêche pas que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais vous partager, c'est tout autour de cet événement de Pâques qui est célébré aujourd'hui presque par tout le monde. Alors on a eu le temps quand même, avant, avant peut-être j'ai nommé mon thème aujourd'hui, le Christ est mort pour nous. Donc c'est ça le thème du jour. C'est court, c'est court comme ça. Même si on sort d'ici, que quelqu'un nous demande ce qu'on a appris, juste lui dire que Christ est mort pour nous. Amen. C'est petit et ça. Ça inclut tout. Alors, le texte que nous allons nous servir se trouve dans Romains 5, versets 6 jusqu'à 11. Je vais demander à Papa Antoine de nourrir le texte et par la suite, je vais continuer.
C'est Romains 5,
Oui, 6 à 11.
6 à 11. Nous lisons. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour l'injuste, peut-être pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Verset 9. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions sans ennemis, que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant, nous sommes réconciliés, seuls nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation.
Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, on a eu le temps durant la semaine sainte, la semaine qui vient de terminer, on a eu le temps d'explorer vraiment tous les passages et les discours et aussi les actions que Jésus a posées dans ces derniers moments avant son arrestation. On a beaucoup focalisé dans le livre de Jean. C'est même le livre qu'on va aujourd'hui encore utiliser beaucoup. On a regardé 13, le chapitre 13 jusqu'à 17. Et je m'en excuse pour cette erreur, c'est jusqu'à 17. Alors, c'était nécessaire parce que Jésus, étant donné que son temps était proche, il le savait, il n'a pas été surpris, il a pris le temps de, je dirais, de récapituler tout ce qu'il avait donné pendant 3 années de son ministère, tout ce qu'il avait partagé à ses disciples jour après jour. C'était comme un résumé. Mais dans ce résumé, il a fait un retour à sa mission sur terre, ce qui lui avait vraiment, ce qui a fait qu'il est descendu de sa gloire pour venir vivre ce qu'il a vécu sur terre. Il a aussi donné des recommandations comment ils allaient se comporter. Et il les a prévenus de tout, je dirais, tout le mal qui allait leur arriver après sa mort, même si à cet instant même, ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que pour eux, Jésus, des fois, le langage qu'il utilisait, ce n'était pas du tout compréhensible pour tout le monde. Il fallait une révélation. Mais ils ne comprenaient pas, mais et après, ils ont compris. Et puis, il a donné aussi des promesses, parce que c'est dans ces derniers moments qu'il a dit qu'il va préparer une place. Il va chez son père, et que chez son père, il y a beaucoup de demeures. Il va préparer pour tout le monde qu'il reviendra. Amen. Il reviendra les prendre pour qu'il puisse être avec lui dans l'éternité. Amen. C'est la promesse pour aimer pour nous aujourd'hui. Alors, des fois, dans les moments comme ça de Pâques, on s'intéresse souvent dans les 3 dernières journées que Jésus a vécu, je dirais, les choses terribles. Et on a tendance à croire que c'est Jésus a vécu vraiment toutes ces menaces pendant 3 jours. Aujourd'hui, j'ai souhaité qu'on fasse un peu, je dirais, le tour dans sa vie, même avant que cela arrive. Vous allez voir qu'il a vécu toute sa vie de son ministère, il a vécu menace après menace, jour après jour. Donc, ce qui fait que je nous ramène dans le premier chapitre du livre de Jean. J'ai choisi Jean parce que je vois il a fait vraiment un enchaînement logique de textes, des choses que Jésus a fait. Ça va nous aider à comprendre. Il a 3 années de ministère, ce que Jésus a vécu réellement. Alors, Jésus, nous avons célébré sa naissance il y a quelques temps, mais après sa naissance, oui, il y a eu d'autres événements jusqu'à 12 ans, mais à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, et on a parlé, la Bible n'en parle pas parce qu'il n'était pas, parce qu'il n'était pas là, mais la Bible n'en parle pas. Et c'est à partir de 30 ans que nous retrouvons encore Jésus sur la scène publique. Et le premier, quand Jean réintroduit, il va dire que c'est la parole. Au début, c'est toujours abstrait. Quand Jean introduit Jésus, il dit c'est la parole. Il dit que c'est celui qui a tout créé. Et qu'il existait bien avant que toute chose soit. Et qu'il est la lumière qui est venue dans l'obscurité, dans le monde obscur, mais malheureusement que le monde ne l'a pas connu. On ne va pas tout de suite comprendre, j'imagine même les contemporains de Jésus ne pouvaient pas comprendre. Même si Jean utilisait peut-être quelques éléments, les outils qu'ils avaient l'habitude de manipuler, d'utiliser à tous les jours, mais c'était difficile de faire référence à ce Jésus. Mais peu après, il y a eu un envoyé spécial qui venait encore introduire maintenant Jésus qui allait venir. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste arrive. Il donne encore plus de clarification de celui qui allait venir. Au début, Jean-Baptiste aussi, on a douté de son identité, on ne comprenait pas. Ce qui a fait que même les prêtres, ils ont envoyé les gens pour lui demander, mais qui es-tu? Parce qu'il prononçait les mots durs. Il parlait aux contemporains de Jésus de cette époque, les mots normalement qui n'avaient été jamais dit par quelqu'un d'autre. Alors, dans quelques éléments qu'il a apportés sur Jésus, il a dit, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Vous allez voir que il a utilisé les mots qui étaient familiers au peuple de cette époque. L'agneau pour les Juifs, c'était quelque chose qu'ils côtoyaient à chaque année. Parce que même si vous voulez, vous connaissez, c'est sûr, l'origine de la Pâque, à partir de l'Ancien Testament, vous allez voir l'importance de l'agneau. L'agneau qui a été tué pour sauver le peuple d'Israël. Amen. Alors, Jean-Baptiste évoque l'agneau maintenant de Dieu. C'est sûr que les gens n'allaient pas comprendre parce qu'ils étaient habitués à voir les moutons, agneaux de moutons là. Mais pour dire agneau de Dieu, c'était encore un peu dire. Mais il ajoute quelques informations qu'il est maintenant le fils de Dieu. Amen. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Et c'est là que ça a commencé maintenant. Peut-être je vais donner beaucoup de références. On ne va pas tout les lire. Mais si vous voulez, si vous pouvez les lire chez vous à la maison, ça va aider. Alors, dans Jean 1, 32 à 34, c'est là qu'il va préciser maintenant. Au début, vous voyez que c'est un peu plus obscur, mais à la fin, il dit c'est le Fils de Dieu. Amen. Alors, comme dans la prophétie, il savait déjà que le Messie allait venir. Il y a quelqu'un qui allait venir, que le prophète avait déjà annoncé dans la prophétie, qui allait venir sauver, libérer l'humanité. Et c'est là que les choses ont commencé quand même à donner, je dirais, à donner la à être clair. Jésus, quelques jours après, c'est une histoire, je raconte ça comme une histoire, quelques jours après, même si Jean-Baptiste le témoignait, mais il ne l'avait pas encore vu. Mais quelques jours après, Jésus vient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et c'est là que même l'Esprit Saint a témoigné que c'est le Fils de Dieu qui est là, qu'il est l'envoyé de Dieu. Et après ça, Jésus maintenant, je dirais officiellement, il a commencé le ministère. Il commença à prêcher l'évangile, village par village. Vous allez voir, c'est vrai que Palestine n'était pas aussi grand, mais il voyageait. La Bible ne nous dit pas, mais il avait vraiment tous les jours, on dirait qu'il avait un voyage à faire pour évangéliser, pour dire aux gens de changer leur comportement. Et c'est à ce moment qu'il choisissait même les premiers disciples. Quand Jean-Baptiste a confirmé que c'est le Fils de Dieu, directement, quelques de ses disciples, certaines personnes de ses disciples parce que Jean-Baptiste avait ses disciples, ils ont maintenant suivi directement Jésus. Donc, ils ont quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Et Jésus, au fur et à mesure, il choisissait d'autres disciples. Je ne vais pas aller en détail, mais vous savez qu'il choisissait, il avait ses critères, bien sûr, même si la Bible n'en parlait pas, mais peut-être parce qu'il voit, il nous voit, il connaît nos capacités, nos forces, nos faiblesses. J'imagine que avant de choisir, avant de pointer quelqu'un, de lui demander de le suivre, il savait déjà cette personne, son importance dans le royaume. Amen. Il savait le rôle que la personne allait jouer. C'est pour cela que vous allez voir que à chaque personne qui a été choisie, vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Et quand il commença à prêcher, comme il prêchait en plein air souvent, c'est vrai qu'il visitait les synagogues, mais aussi en plein air. Et là, c'est comme si l'information a circulé. L'information a commencé à se propager de bouche à oreille. Vous allez voir dans ce chapitre que les gens, quand ils se croisaient, la première chose qu'ils se disaient, ah, nous avons croisé la personne que les prophètes nous ont annoncée. Donc, c'était comme à la une, c'était à la une de l'actualité de cette époque. Donc, tout le monde en parlait. Oui, les gens, je n'ai pas mentionné que Israël, c'était la province, une des provinces, une des colonies romaines. C'est vrai qu'ils vivaient des choses terribles. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les sauver. Même quand ils pensaient à son Messie, ils pensaient que c'est lui qui viendra quand même les libérer de toutes ces menaces des Romains. Alors pour eux, pour certaines personnes, je dirais la classe moyenne, ils étaient dans la joie parce qu'ils vivaient sous la pression, non seulement des Romains, mais de leurs frères, pharisiens, sadducéens. Si je parle un peu des pharisiens, parce que la Bible en parle beaucoup, les pharisiens, c'était un groupe ou bien un secte comme une partie politique des juifs qui étaient là pour surveiller et préserver la loi mosaïque. Donc, ils étaient là pour quand même voir si tout ce qui se fait suit la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais non seulement ça, parce que si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que en plus de 10 lois, ils avaient ajouté beaucoup, beaucoup plus de caprices, de lois. Comme ça, le peuple était fatigué. Ils étaient fatigués. Vous allez voir que Jésus, même en arrivant, il va commencer à les traiter d'hypocrites. Parce que eux-mêmes, ils avaient mis des lois, des traditions qu'ils ne pouvaient même pas eux-mêmes respecter. Mais ils obligeaient le peuple de les respecter. Un petit exemple, vous vous rappelez quand les disciples de Jésus ont mangé sans laver les mains, vous vous rappelez que ça a créé comme un scandale. Ce n'était pas dans la loi mosaïque, ça. Jamais Dieu n'a jamais obligé les gens, vous devez laver les mains avant de manger. Oui, c'est une bonne chose. Mais pour eux, ils avaient ajouté, c'était rendu une loi, c'était une tradition, mais qui était devenue comme une loi. Donc, pour les personnes qui ne pouvaient pas respecter toutes ces choses, tous ces détails, c'était difficile. Et c'est tous ces détails qui avaient pris, qui primaient par rapport aux 10 lois. C'est ça que Jésus, à chaque fois, les réprimandait. De prendre la tradition de leurs ancêtres et de les remplacer par la loi, donc qu'ils devaient normalement respecter. Alors, Jésus, étant dans son ministère, comme il ne pouvait pas s'empêcher de dire la vérité parce que lui-même est la vérité. La vérité, Ça a créé, bien sûr, des problèmes. Ça lui a créé des problèmes, surtout au niveau, je vais dire, des pharisiens, des sadducéens. Sadducéens, c'était un petit groupe maintenant, c'était comme un secte, mais très restreint, qui, normalement, qui gouvernait tous, je veux dire. Vous savez, même dans nos pays, ce n'est pas les gens qu'on voit qui prennent les décisions. Des fois, il y a d'autres personnes qu'on ne voit pas sur scène, mais qui sont là pour dire au pays doit marcher comme ça. Donc, c'est à l'époque de Jésus, les sadducéens, c'était ces genres de personnes qui prenaient vraiment, qui avaient tous les privilèges, les privilèges, qui venaient des classes même riches, nobles. Ce n'était pas n'importe qui pouvait faire partie de Sadducée. Alors, pour eux, parce que Jésus, quand il arriva, il commença même à mobiliser le peuple de ne jamais suivre les enseignements des pharisiens, des Sadducéens. Ça lui a créé des problèmes. Pour le peuple, c'était bon parce que c'était comme Jésus allégeait quand même le fardeau qui pesait sur eux. Mais pour les autres, c'est comme il les arrivait l'autorité, les privilèges de gouverner. Et vous vous rappelez quand Jésus se rendait, bien sûr, le jour de Pâques encore, se rendait à l'église, dans le temple, quand il a vu tous les caprices qui se faisaient. Tout ça, c'est les sadducéens, les pharisiens qui étaient derrière, parce qu'ils en tiraient profit. Alors, Jésus, faire ce qu'il a fait, c'était toujours créer des ennemis. Donc, la tension, si vous lisez les évangiles, vous allez voir que jour après jour, la tension montait. La tension montait. Même ils essayaient de rattraper, mais ils ne pouvaient pas parce que son temps n'était pas encore arrivé. Donc, ils ont essayé quand même à plusieurs reprises. Et puis, dans le ministère de Jésus, vous savez, il a aussi, à chaque fois, non seulement l'évangile, mais il s'intéressait aussi au physique. Il a guéri les malades, il a ressuscité les gens. Donc, il faisait toutes sortes de choses que normalement on devait admirer, mais qui se retournaient contre lui. Parce que c'est à partir de ce qu'il faisait que les pharisiens et les autres, je dirais les autorités juives, c'est là qu'il tirait les accusations. Vous allez voir, un jour, Jésus guérit quelqu'un qui est né aveugle. Et puis, ça a créé un scandale. Pour certains, ils étaient contents de voir quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et même la Bible nous dit qu'eux-mêmes, ils témoignent que jamais auparavant, il y a des choses pareilles. Si tu naissais avec une infirmité, la forte chance c'était que tu meurs aveugle. Mais Jésus arriva, commença à toucher toutes ces choses normalement qui étaient difficiles. Mais ça n'a pas plu à certaines personnes. J'ai été étonné de voir que dans la foule qui suivait Jésus, toujours on ne pouvait pas manquer les pharisiens. Vous savez, même dans nos églises aujourd'hui, les pharisiens sont toujours là. Les pharisiens sont toujours là. Donc, les pharisiens n'étaient pas là pour écouter la parole. Non, ce n'est pas qu'ils avaient l'intérêt dans ce que Jésus disait. C'était à chaque fois trouver le piéger, voir dans les propos qui sortaient, mais qu'est-ce qu'on peut, à partir de quoi on peut quand même formuler une accusation. Quand il a guéri cet homme, ça a créé un scandale de dire que il a guéri. Et il ne s'intéressait pas à la vie de cette personne, au bien-être de cette personne après avoir retrouvé sa vie. Mais il disait, tu as fait ça le jour du sabbat. Et c'était interdit. Il faut jamais faire quoi que ce soit au jour du sabbat. Même faire des biens, des choses pareilles. Alors, c'est comme ça que Jésus était toujours contre eux. Parce que, oui, il avait sa mission, il avait sa mission à remplir, mais les autres, ils étaient contre. Si je me dépêche parce qu'on n'a pas assez de temps, j'ai laissé les versets, les références. Vous pouvez à la maison quand même revisiter ces versets pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Mais plus loin, je vais dire un autre événement qui a aussi déclenché, je dirais même toutes les accusations qui ont fait que son arrestation soit un peu rapide. Et nous connaissons l'histoire de Lazare, qui était son ami, qui est mort, mais qui l'a ressuscité. Vous imaginez quelqu'un ressuscité, toute la communauté devait se réjouir de ça, mais les pharisiens, ils n'étaient pas contents. Ils ont même, imaginez, ils se sont organisés jusqu'à faire mourir Lazare encore. Parce que pour eux, surtout les sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection. Je n'ai pas donné les détails sur ces deux sectes qu'on retrouve souvent dans la Bible, mais les pharisiens, du moins, ils étaient d'accord pour beaucoup de choses. Ils croyaient à la résurrection, beaucoup de choses, mais pour les sadducéens, c'était le contraire. Ils ne croyaient à rien, à rien. C'est pour cela même, quand on a dit qu'il y a un homme qui est ressuscité, ça a créé le scandale parce que pour eux, c'est comme si le peuple maintenant qu'ils avaient pris en otage pendant longtemps et disant que personne ne peut jamais ressusciter, il y avait les faits, les preuves. Ils avaient peur que maintenant le peuple puisse suivre Jésus parce qu'il avait prouvé le contraire de ce que les autres enseignaient. C'est pour cela qu'ils ont créé un complot pour faire mourir Lazare et puis après pour dire que c'était des mensonges et la personne n'est jamais ressuscité. Mais tout a échoué parce que les choses avaient été faites la journée, c'était pas la nuit. Jésus ne se cachait pas. Bon, oui, de temps en temps, quand il faisait des choses, il pouvait se cacher après, mais beaucoup de choses, il faisait ça la journée, même dans les synagogues, tout le monde avait vu que Lazare était ressuscité. Alors, je dirais que ce miracle a suscité beaucoup de colère, jusqu'à ce que même les prêtres se sont réunis, toutes les autorités de cette époque, pour dire, vous voyez ce qui se passe maintenant, si on continue à vraiment ne pas prendre de décision, ce gars va nous renverser. Donc, vous voyez que le monde commence vraiment à croire à lui. Donc, il faut vite, vite prendre les décisions. C'est pour cela qu'ils se sont même précipités pour forger les accusations. Mais son temps était déjà arrivé déjà. Donc, maintenant, c'est là que on trouve maintenant ce que je vous ai dit dans mon introduction, là où il voyait que les choses, quand même, il arrive au bout de son ministère, là où il a commencé maintenant à léguer, si je pourrais dire ainsi, à dire les derniers discours, parce qu'il voyait que maintenant, le temps était proche. Alors, vous comprenez tout, je n'ai pas tout dit, mais j'ai quand même donné quelques exemples qui montrent comment Jésus, à chaque jour, il recevait des menaces. Les gens, oui, aujourd'hui, les gens étaient contents de lui, mais demain, c'était une autre affaire. Ils se tournaient contre lui. Donc, vous voyez, les gens, ils n'étaient pas vraiment quelqu'un qui était le bienvenu, qui était, d'après ce qu'il venait, d'après sa mission. Il devait être bien accueilli par tout le monde, mais ça n'a pas été le cas. Mais par son amour, il n'a jamais lâché. Amen. C'est même ça qui fait que nous sommes dans la joie. Parce que j'imagine si c'était une personne, au bout d'une année, Tu pourrais dire non, qu'est-ce que je fais là? Je vais retourner chez moi. Parce que je ne peux pas. Je viens sauver les gens, mais les mêmes personnes que je viens sauver, mais s'ils ne me comprennent pas, c'est quoi cette affaire? Mais il a persévéré. Il a persévéré. Il n'a pas cessé de faire du bien aux gens, malgré les insultes, malgré les menaces, jusqu'à ce que son temps arrive. Amen. Amen. Alors, pour terminer, je n'ai pas rentré je dirais, dans les arrestations, sur la croix. Donc ça, nous connaissons cette histoire, je sais. Après son arrestation, il a été maltraité jusqu'à mourir sur la croix. Et vous savez, à ce moment-là, les gens qu'il avait nourris, il avait opéré des miracles au milieu d'eux, c'est eux-mêmes qui disaient, crucifie-le. Parce que les autorités, il faut comprendre que à chaque fois je dirais, il interrogeait, il ne trouvait rien de grave pour qu'il pouvait le mettre à mort. Mais à cause de la pression, de la pression du peuple, des pharisiens, déjà, les autorités avaient peur de perdre leur boulot, leur poste, une fois relâché cette personne. Des fois, il le livrait contre leur volonté. Et là, il est mort comme un bandit, et même les bandits qui étaient condamnés, y en a un qui a été sauvé parce que pendant cette période, il fallait libérer une personne. C'était, je dirais, quelque chose de régulier. Donc, on devait libérer une personne, peu importe le crime. Mais imaginez que au lieu de libérer Jésus, mais ils ont dit non, 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 non. Il y avait un bandit qui avait tué, qui avait fait des dégâts. Ils ont dit non, 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 non. Lui, il est pire que tous les brigands qu'on a connus ici. Donc, il est mort. Mais la joie que nous avons aujourd'hui, il n'est pas resté dans la tombe. Amen. Il n'est pas mort définitivement comme nous connaissons les autres qui sont morts. Vous savez, j'ai la misère à le dire, mais aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup de gens qui disent, nous croyons en tel. À une telle personne, mais quand vous lui demandez comment, ils vont te dire qu'il est mort. C'est quelqu'un qui a existé, qui avait des doctrines et tout ça, et puis qui a laissé cette tradition que les gens suivent aujourd'hui, mais la personne est morte. C'est difficile pour moi de croire à quelqu'un qui est mort, mais nous, nous croyons en un Dieu vivant. Amen. Il n'est pas mort définitivement, mais au troisième jour, il est ressuscité. Alors, comme conclusion, nous commémorons, bien sûr, je vous ai rappelé le processus qui nous a ramené même à notre libération par le sang de l'agneau. Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Comme on l'a dit dans le message, nous sommes sortis de l'esclavage du péché. C'est ça, Pâques. Pâques, ça veut dire sortir d'une place à l'autre. Pour les Juifs, ça signifiait beaucoup de choses. La Pâque ne signifie pas seulement sortir de l'Égypte. Il y a d'autres choses, mais le plus important qui commémore c'est de sortir de l'esclavage, en Égypte pour regagner la terre promise. Alors nous, pour nous les chrétiens, si nous célébrons, c'est parce que nous avons été libérés du monde du péché pour vivre dans le monde maintenant où nous sommes libres en Jésus. Amen. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous savons que même si nous mourrons, mais nous serons ressuscités. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus le troisième jour, il va nous ressusciter. Amen. C'est notre espoir. C'est l'espoir que nous avons plus que beaucoup de gens dans ce monde qui croient qu'une fois mourir, c'est fini. Oui, si j'ai de telles croyances, je vais m'abuser comme je veux parce que je sais que dès que je meurs, c'est fini. Mais pour nous, tout ce que nous faisons plus attention à notre vie d'après la mort. Amen. Parce que nous croyons à la résurrection. Alors nous allons prier, mais surtout, on va prier pour ces gens. Malgré que Jésus est mort, malgré les écrits qui en parlent, mais il y a des gens qui toujours qui ignorent, qui ne veulent même pas entendre. Je n'ai pas le temps, mais si vous lisez dans l'Exode, je pense l'Exode, vous allez voir quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, arrivait dans le désert, ils ont eu à insulter Dieu, à insulter Moïse à cause de ce qu'ils vivaient, qu'ils ne pouvaient pas surmonter toutes les épreuves. Ils avaient faim, il n'y avait pas d'eau. Alors, ils se tournaient contre Moïse, lui demandant, mais pourquoi tu nous as amenés mourir dans le désert? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombe, donc on préférait mourir en Égypte que de nous amener mourir dans le désert. Mais cela a fâché l'Éternel et il a envoyé les serpents. Ils ont tué beaucoup de monde, mais à un moment donné, ils ont compris que c'est de leur faute. Ils ont demandé à Moïse, ils ont dit pardon, demande à l'Éternel de nous pardonner. Et l'Éternel a dit, a demandé à Moïse de forger un serpent et de remettre, si je dirais, la pendaison, si le poteau. Et il dit, il obligea le peuple, qui était mordu, qui était au point de mourir, il leur dit, si vous voyez, si vous regardez le serpent là, vous serez guéri. C'est bizarre peut-être de comparer un serpent à Jésus, mais aujourd'hui, malgré tout, il y a des gens qui refusent toujours de voir Jésus, de voir ce que Jésus a fait sur la croix, qui préfèrent mourir. Je ne sais pas si parmi les gens, la Bible n'en parle pas. C'est sûr que peut-être il y en avait qui ont dit, mais comment, n'importe quoi, comment regarder des choses que tu as forgées, je ne regarde pas. Peut-être, il y a des personnes peut-être qui s'en foutaient de ce que Moïse a demandé. Ils sont morts. Aujourd'hui, il y en a pas mal de gens qui ignorent, qui méprisent le fait que Jésus a été sur la croix pour nous. Mais aujourd'hui, nous prions, nous allons prier pour ce monde, pour qu'il puisse se réaliser, voir que Jésus est mort pour nous et pour notre bien, pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce, te disons merci, parce que si nous sommes là, c'est parce que tu as accepté de mourir à notre place et tu es ressuscité. Et à partir de cette résurrection, nous aussi, nous sommes libérés du péché et nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur. Mais à ce moment, comme tu étais venu sauver l'humanité, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de monde tout autour de nous qui ignore ce que tu as fait sur la croix. Et la seule chose, c'est de croire. c'est de croire à cet acte et d'être sauvé. Mais comme il y a beaucoup de monde qui ne s'intéresse même pas, qui ne veulent rien savoir, nous prions pour ces personnes, Seigneur. Nous prions pour ces personnes, qu'ils puissent se réaliser, qu'ils puissent, Seigneur, voir que c'est toi le seul sauveur du monde, de l'humanité, et que tu l'as déjà fait, qu'aujourd'hui il suffit, Seigneur, seulement de croire en toi et d'être sauvé. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit, de visiter toutes ces gens. Et merci pour cet acte que tu as fait pour nous sauver. Merci, Seigneur, parce que si nous sommes ici dans la joie, c'est parce que nous croyons à ce que tu as fait. Nous croyons à la vie éternelle que tu nous as donnée. Merci, Père, nous te prions ainsi, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.